Je commence en vous racontant une tranche de vie. Aimez-vous ça, les tranches de vie? Hein? L'an passé, à pareille date, je vivais quelque chose secrètement qui était un peu difficile. Je vivais de la fatigue intense, de la fatigue extrême. C'est des gens qui se sentent fatigués, là, c'est l'automne. Là, hein? OK, bon. Et je ne comprenais pas pourquoi, ça faisait longtemps que je me sentais comme ça. Vers 3-4 heures de l'après-midi, ma batterie était vide. Et quand on est papa, qu'on a des jeunes enfants, qu'on est pasteur, à 3-4 heures, là, il ne faut pas que la batterie soit à terre. Okay? Il faut de l'énergie, il faut de la vigueur, parce que là, c'est les devoirs, les soupers, la vaisselle, les bains, gérer tout ce qu'il y a à gérer. Vous savez c'est quoi, gérer tout ça. Et ma femme me disait, « Dave, c'est évident, tu fais de l'apnée du sommeil. » Je dis, « Ben voyons, de l'apnée du sommeil. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? » Fait que là, la nuit, elle dit, « T'arrêtes de respirer la nuit. J'arrête de respirer la nuit. Voyons donc. » Fait que là, finalement, j'ai fait les tests après de longs mois que ma femme me disait que j'avais ce problème-là. J'ai fait les tests et en effet, je faisais gravement de l'apnée du sommeil. Okay? Je me réveillais, je pense que c'est 30 fois par heure où je ne respirais pas pendant plus de 10 secondes, quelque chose comme ça. Donc, ça ne fait pas des belles nuits de sommeil et ça expliquait pourquoi j'étais en manque d'énergie. Donc, j'ai fait les tests et maintenant, j'ai une machine. C'est très, très... Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui font de l'apnée du sommeil ici. C'est très chic de dormir avec ces machines-là. Alors, j'ai un masque, je ressemble à un pilote de chasse quand je dors la nuit et je respire comme Darth Vader. Dans le masque. Mais grâce à ça, dans ma vie, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de la vigueur, j'ai retrouvé de la force. Maintenant, à 7 heures le soir, là, je suis là, je suis prête à gérer des affaires. Non, des fois, je suis encore fatigué un peu, c'est l'automne, il fait noir, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous êtes en manque de force et d'énergie. Peut-être que tu es ici ce matin, que tu te sens découragé, que tu te sens comme s'il te manque de vigueur intérieurement, comme s'il te manque de force, comme si tu te sens comme une lourdeur sur les épaules. Et je sais que pendant que je parle, je sais qu'il y a plein de gens, vous dites intérieurement, c'est à moi que tu parles. Je me sens comme ça. Il me manque d'énergie. Il me manque de force. Ce matin, pendant ce message, mon désir, c'est que tu puisses trouver et saisir une nouvelle façon d'aller chercher de la force et de la vigueur. Et d'ailleurs, le titre de mon message ce matin est « Que la force soit avec toi ». Je ne parlerai pas de Star Wars, pour ceux qui n'avaient pas compris. Okay? Je ne parlerai pas non plus d'une force cosmique de l'univers qui peut nous être acheminée en faisant différents rituels, pas pantoute. La force que je vous parle ce matin, c'est la force que le Seigneur peut te donner. Tu as le droit de dire « Amen », tu as le droit de dire quelque chose. Il existe auprès de Dieu une force, une puissance extraordinaire. Et quand on est croyant, quand on est chrétien, nous pouvons accéder à Dieu et à la force qu'il veut nous communiquer pour faire face aux défis de la vie. Alors ce matin, ma prière, c'est que tu puisses découvrir ce Dieu et cette force que Dieu a pour toi. Parce que vous savez, on vit dans des jours qui ne sont pas faciles. On vit dans des jours d'opposition. On vit dans des jours difficiles. Dans les prochaines semaines, on va en parler. On vit dans les temps de la fin. Et comme jamais, nous avons besoin de nous connecter à Dieu et de recevoir la force qu'il a pour nous. On va lire ensemble ce matin dans Éphésiens 6, verset 10, qui dit ceci, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force qui est quand même pas pire. » Est-ce que c'est ça qui est écrit? C'est pas écrit « dans sa force pas pire ». C'est écrit « et dans sa force toute puissante ». On sert le Dieu qui a tout créé. On sert le Dieu au-dessus de toute chose qui a créé l'univers, la terre, toutes les planètes, les galaxies. Ce Dieu tout puissant, tu y as accès. tu peux t'approcher de lui. Il peut accomplir le miraculeux dans ta vie. Il peut communiquer à ton âme la force que tu as besoin pour affronter les défis de ta vie. Tu as le droit de dire quelque chose, un amen. Hébreux 10, verset 19, nous dit ceci. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc. Dis à quelqu'un, approchons-nous donc. Ça ne se dit pas si facilement, vous allez voir. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le texte nous dit ici que nous avons maintenant, grâce à ce que Jésus a fait, grâce à son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé, nous avons maintenant libre accès à Dieu. Vous savez, ça, je le sais, là, je ne vous apprends rien. Mais pensez-y un instant. Pensez-y à quel point c'est fort comme pensée. Pensez-y à quel point c'est puissant. Nous avons libre accès à Dieu. On peut s'approcher de lui et avoir et acquérir auprès de lui tout ce qu'il peut et veut nous communiquer. Vous savez, nous vivons dans un combat en ce moment. Les prochains versets dans Éphésiens 6, verset 11, ça nous dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et aujourd'hui, je pense qu'il est important comme croyant de prendre conscience que nous sommes en plein cœur d'un combat. Et je le sais qu'on le sait, mais une des stratégies de notre ennemi, c'est de nous faire oublier cette vérité. De nous faire oublier cette vérité et de vivre une vie chrétienne que j'appelle la vie chrétienne put-put-put. Okay? La vie chrétienne put-put-put, c'est la vie chrétienne où on fait juste le minimum. Okay? Donc, on va à l'église, mais pas tout le temps. Okay? Mais on y va. Puis, on loue le Seigneur, mais pas trop fort. OK? On répond à l'appel du pasteur, mais pas tout le temps non plus. Puis on s'implique juste si le pasteur nous tord un bras. Tu sais. Puis on, le reste de la semaine, bien, on vit notre vie. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce qu'on vit dans un temps de combat et le Seigneur nous appelle pas à une vie chrétienne put-put-put, mais à une vie chrétienne où on est entièrement consacré, dédié et abandonné à Jésus-Christ. Où notre vie est à lui à 100%, où il n'y a pas de place pour l'ennemi et pour les manœuvres du diable contre nous dans notre vie. Êtes-vous là ce matin? Nous sommes dans un combat et c'est important de nous le rappeler ce matin, qu'on se le rappelle. On ne veut pas devenir fou avec ça, on ne veut pas devenir déséquilibré et voir des démons partout, mais la vérité, Dieu existe, Satan existe aussi et il veut vous détruire. Et tu dois être au courant de ça ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Il ne peut rien contre toi si Jésus habite en toi, mais tu dois être conscient qu'il y a une bataille, qu'il y a un combat. Tu es toujours là? Prendre conscience du combat. 1 Pierre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Je te dis ce matin, tu n'es pas seul à vivre le combat. Tous les chrétiens le vivent dans le monde. Les milliards de chrétiens vivent ce même combat que tu vis. Des fois, on a l'impression d'être seul quand ça va mal, quand on vit des tentations, quand on vit des difficultés et des combats. Combien vous vous sentez seul? Avouez, lève ta main si tu te sens seul. Des fois, tu penses que tu es toute seule à vivre tout ça. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Peut-être que ça ne change rien pour l'instant dans ta vie, mais tu n'es pas seule. Les mêmes combats sont demandés à tous les chrétiens. La Bible nous dit ici que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Son objectif à lui, c'est de nous détruire, de nous anéantir. Il rôde. Il veut, il a toutes sortes de manœuvres, comme on va le voir dans un instant, pour nous déstabiliser, nous démoraliser, pour nous détruire complètement. Le verset 10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il faut prendre conscience du combat. Il y a un ennemi qui rôde, qui veut, vous savez, nous sommes dans un temps particulier, mais comme Église aussi, nous sommes dans un moment particulier. Nous sommes en démarrage, en implantation. Et s'il y a une chose que l'ennemi voudrait faire, c'est de tuer l'oiseau dans l'œuf, de venir nous arrêter avant même qu'on commence, de venir nous diviser, de venir faire en sorte qu'on adopte une mentalité de spectateur. Il y a plein de stratégies et de manœuvres qui voudraient être levées contre nous. Et je vous nomme quelques manœuvres du diable que j'observe dans ces temps-ci, auxquelles il faut absolument résister. Une des manœuvres, nous faire croire que nous pouvons vivre pleinement notre vie chrétienne sans l'Église en présentiel. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Si tu es ici ce matin, peut-être que tu n'es pas tombé dans ce piège-là parce que tu es ici ce matin, parce que tu es là. Mais une des choses que l'ennemi voudrait faire, c'est de nous amener à nous isoler. Qu'on se dise, écoute, j'écoute la réunion chez nous, je suis en pyjama, en flanellette, j'ai mon gros mug de café, j'ai NV chez vous qui m'amène dans la louange, j'ai la prédication, je peux même pleurer puis prier, peut être touché par Dieu. Pas besoin d'aller à l'Église! Erreur! C'est une manœuvre du diable dans ta tête. C'est un piège de l'ennemi. L'Église, c'est quand on est rassemblés ensemble. Le mot « Église » veut dire « rassemblement ». C'est quand on est ensemble. Tu as besoin de l'Église. Et l'Église a besoin de toi. C'est ici que ça se passe, l'Église. Une autre manœuvre du diable, nous faire croire que nous pouvons mélanger le véritable christianisme avec des philosophies et des pensées de toutes sortes. Si on observe les textes dans la Bible qui nous parlent des temps de la fin, on voit souvent que ça nous parle des faux prophètes, des faux Christ, des faux enseignants, des faux enseignements, que plusieurs des chrétiens vont être séduits. Et j'aimerais te dire, il faut être vigilant et s'attacher à la parole de Dieu et à l'enseignement de la parole de Dieu. On ne peut pas mélanger n'importe quelle philosophie avec Jésus et la Bible. Il faut examiner à la lumière de la parole de Dieu toutes les pensées et les philosophies auxquelles nous faisons face, que nous rencontrons ou que même nos amis chrétiens nous partagent. Êtes-vous là? Un autre piège de l'ennemi, ouvrir des portes dans nos vies aux tentations sexuelles. Ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui. Hein? Au bout du téléphone, tu as accès à de la pornographie facilement. Sur l'ordinateur, à la télé, c'est le temps d'être vigilant. C'est le temps d'être sans compromis dans notre vie sexuelle, d'être fidèle à notre femme, d'être fidèle à notre mari, de vivre pour Dieu. Bien sûr, je ne prêcherai pas sur la sexualité ce matin, mais vous êtes au courant de toutes ces tentations, de toutes ces possibilités, que ce matin, le Seigneur parle à nos cœurs et nous rappelle dans la pureté. Qu'on puisse s'engager ensemble à dire, Seigneur, je veux être pur pour toi. Je veux que ma vie publique et ma vie privée te glorifient. Vous êtes toujours là? De justifier le non-pardon peut être une autre manœuvre du diable. À cette personne-là, j'y en veux, mais j'ai tout un raisonnement pourquoi j'y en veux. Puis mon raisonnement fait que je continue d'y en vouloir. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Je ne prêcherai pas sur le pardon ce matin, mais je nomme quand même que c'est une des manœuvres du diable. Un autre piège de l'ennemi, c'est de demeurer dans la colère. C'est normal d'être en colère parfois. Vous arrive-t-il de vous mettre en colère parfois? Si tu dis non, ben, t'es spécial. ça nous arrive tous de se mettre en colère. Mais là où il y a un problème, c'est quand on nourrit cette colère, qu'on reste dans cette colère. Et on vit dans une société en ce moment où il y a une ébullition de colère dans la société. Et en tant que croyant, il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber là-dedans. Le Seigneur va vous donner de la joie, de la paix, de la liberté. Et même si c'est des choses qui nous mettent en colère, qu'on ne puisse pas rester dans cet état de colère parce que c'est un piège qui nous emmène à devenir des gens aigris, frustrés, puis revendicateurs et qui ne servent pas le Seigneur pendant qu'ils sont en colère puis qu'ils revendiquent. Vous êtes là? Ça se peut que ça soit « ouch » aussi ou que tu dises au lieu d'en amène, là. C'est correct. Mais ce matin, qu'on puisse comprendre c'est quoi les manœuvres de l'ennemi de notre âme contre nous et contre l'Église. De faire une fixation à propos de la pandémie, du passeport vaccinal, des mesures sanitaires, etc. Je rencontre des chrétiens qui ne parlent que de cela. Et ce matin, oui, il y a plein d'affaires. On pourrait débattre, on pourrait discuter, mais le Seigneur ne t'appelle pas à ce que ça occupe tes pensées sans cesse. Le Seigneur a d'autres choses pour ta vie. Le Seigneur a d'autres plans pour toi que de parler de ça, puis c'est-tu la marque la bête, c'est-tu ci, c'est-tu ça? Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu t'appelle à aimer ton prochain. Dieu t'appelle à servir ton Église. Dieu t'appelle à prendre soin de ta famille. Dieu t'appelle à l'évangélisation. Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à être cet espoir dans ce monde de colère et dans ce monde qui est tout perdu. Alors ce matin, si tu es tombé, puis c'est facile de tomber là-dedans. Hein, on parle avec des gens, puis ça nous nourrit, puis on demeure là-dedans. Si tu sens que c'est toi ce matin, là, je t'invite, je t'appelle à te sortir de ça et à demander l'aide du Seigneur. C'est un piège. Ça nous occupe, puis pendant qu'on est occupé, on ne fait pas ce que le Seigneur s'attend de nous. Tu peux dire, ah, c'est correct. Prendre à la légère notre vie de prière, ne pas y accorder de l'importance qu'elle mérite. Et ça, je vais en parler à la fin de mon message. C'est un des pièges que l'ennemi déploie le plus dans la vie des chrétiens. S'il peut juste nous empêcher de prier, s'il peut juste nous empêcher d'aller dans la présence de Dieu à chaque jour de notre vie, ça fait bien son affaire à notre ennemi, parce qu'on va être des chrétiens sans puissance, parce qu'on va être des chrétiens sans fruits. On ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouissante sans prière. Impossible! Et ce matin, je ne veux pas te taper sur la tête, mais je veux t'appeler à une vie chrétienne authentique, consacrée, où la prière fait partie intégrante de ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes, on peut applaudir le Seigneur pour ça, ça vaut la peine. Mon prochain point s'intitule comme ceci, « Aux armes citoyens ». OK? Aux armes. C'est l'heure de prendre toutes les armes de Dieu. C'est l'heure, c'est le moment. Verset 13, c'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen! C'est le temps de prendre nos armes. On ne peut pas être un chrétien, pout, 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 c'est fini. C'est fini, je déclare. Tu ne peux pas être un chrétien, pout, pout, pout. C'est le temps d'être entier pour Dieu. C'est le temps de prendre les armes. C'est le temps de nous consacrer à la prière. C'est le temps de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et de marcher dans la volonté de Dieu pour ma vie. Ici, on voit la vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'Évangile, la foi. On voit le salut, l'Esprit, la parole de Dieu. Et j'attire votre attention sur une phrase. Ça dit ici, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Et vous savez, dans les guerres anciennement, une des coutumes, vous avez déjà vu ça dans les films là, d'époque, c'était d'avoir des flèches et au bout d'avoir un mouton auquel on met le feu. Okay? On va le dire de façon très claire. Et là, on allume la flèche, et là, on lance la flèche, et là, la flèche enflammée atterrit, soit qu'elle heurte quelqu'un ou un bâtiment, et là, le bâtiment prend feu, la personne prend feu. Et la Bible ici compare les attaques de l'ennemi à des flèches enflammées. Lorsque l'ennemi nous attaque, lorsqu'il y a ces manœuvres, ces combats contre nous, ce sont des flèches en feu. Et en tant que croyants, nous devons apprendre à éteindre rapidement le feu de ces flèches. L'ennemi attaque, et souvent ça se passe dans nos pensées. Une pensée vient, une pensée de découragement, une pensée de flirtage avec quelqu'un, une pensée vient, la flèche enflammée arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser le feu brûler? Ou est-ce que tu vas rapidement éteindre la flèche enflammée que l'ennemi nous lance? Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être à ton travail. Tu côtoies quelqu'un du sexe opposé et tu es déjà marié, mais cette personne-là, tu la trouves attirant ou attirante. Et ça commence comme ça. Ça commence par un sourire, ça commence par un bonjour. Ça commence par « on irait-tu prendre un petit café? » Et un petit flirtage normal de bureau. Normal, vous comprenez? C'est comme ça les manœuvres de l'ennemi. Il y a le mot « normal » souvent. C'est normal, c'est correct. Là, cette relation qui commence doucement, la flèche enflammée est là, mais si tu n'éteins pas cette flèche-là, ça peut ruiner ton couple, ta famille, ta vie, ton ministère, ton appel. Et je donne juste un exemple comme ça, mais il y a des milliers d'exemples où la flèche enflammée arrive. Et en tant que croyant, on veut être alerte. Vous êtes là? On veut être réveillé. On va dire, OK, ça, c'est pas de Dieu, cette pensée-là. Oh, non, ce regard-là, ça, c'est pas de Dieu. Ce qui se passe en ce moment, ça, c'est pas de Dieu. Et dans le nom de Jésus, je passe à autre chose. Et j'éteins cette flèche enflammée. Vous êtes là? On éteint, avec l'aide de Dieu, toutes les flèches enflammées qui viennent contre nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à la victoire. Nous sommes appelés à implanter ici, à Drummondville, une église d'impact. Comprenez-vous notre mission? Quand je dis une église d'impact, je ne parle pas de la gloire humaine. Je parle d'âmes sauvées. Les guerres sont pour avoir plus de territoire, plus de richesses, plus de ressources que dans le sol. Mais la guerre spirituelle, l'enjeu, c'est les âmes. C'est les gens. C'est les personnes. Et nous sommes appelés à gagner cette guerre. Nous sommes appelés à nous emparer des âmes. La Bible nous dit que le sage s'empare des âmes. Et le plan de Dieu pour notre Église est de rejoindre une multitude de personnes qui vivent dans les ténèbres sans Jésus. Et que ces gens-là puissent découvrir le message transformateur de Christ et la personne de Jésus. Et qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés et avoir accès à Dieu. Êtes-vous là ce matin? Je continue. Ne vous en faites pas, je ne sais pas trop long. Il y a un verset que je veux vous lire dans 2 Corinthiens 6, versets 6 et 7. Ça dit, « Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, de la justice. » J'aime ce texte. On parle de combat spirituel et souvent, on a des armes qui sont défensives. Vous êtes là? L'ennemi nous attaque, on réplique avec la vérité, avec la parole de Dieu et on reçoit l'attaque, on la combat, on se bat. Mais le Seigneur nous appelle plus à plus qu'à se défendre. Le Seigneur nous appelle à attaquer, à s'emparer. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'empare du royaume de Dieu. Et ce que j'entends par là, c'est des chrétiens, oui, qui se défendent contre l'ennemi, mais aussi qui veulent prendre du territoire contre notre ennemi. C'est-à-dire, évangéliser, ouvrir notre bouche, parler de Jésus, parler de sa grâce, inviter quelqu'un à l'église, intercéder pour un membre de notre famille, prier, aller dans la présence de Dieu. Je vous parle des armes offensives. Mon dernier point ce matin, j'espère et je prie que chaque personne ici puisse saisir ce dernier point qui est absolument crucial et important. Je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur maintenant, alors que je vous le partage. Mais ce que le Seigneur nous appelle, c'est à une vie de prière comme arme ultime. Le verset 18 nous dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Il va dire, « Priez pour moi. » afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Le verset 18 ici, dans ce texte sur le combat spirituel, le combat de la foi, nous dévoile notre arme ultime. C'est une vie de prière intense. C'est ça notre arme ultime. C'est à l'opposé du chrétien pout-pout-pout. C'est une vie de prière de tous les instants. Avez-vous remarqué les paroles, les mots qui ont été utilisés dans ce texte? En fait, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Tu veux connaître l'appel de Dieu sur ta vie? Je viens de te lire l'appel de Dieu sur ta vie. D'être un chrétien qui prie sérieusement, qui prend au sérieux sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Je crois que dans les jours dans lesquels on vit en ce moment, des jours difficiles, des jours d'opposition, de colère, des jours, on est dans les temps de la fin, je le crois. Je pense que les chrétiens, comme je disais tantôt, pout-pout-pout, vont disparaître. Tu ne pourras pas rester médium pour le Seigneur dans ces temps-ci. C'est impossible. Je t'avertis, tu ne pourras pas. Tu as besoin de la force de Dieu, la force surnaturelle de Dieu. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu d'une façon nouvelle, intense, d'être proche de lui de tous les instants. Il y a quelques années, je me suis fait bâtir une maison et c'était en région, il n'y avait pas l'eau courante, l'eau de la ville. Combien vous avez fait bouillir votre eau cette semaine? Il y avait un avis d'ébullition. Il y en a que vous ne saviez peut-être pas. Peut-être que vous avez été malade. Et une des choses qu'on fait quand on se fait bâtir une maison, on se fait creuser un puits, okay? Un puits artésien. Et c'est impressionnant. Un gros camion qui arrive, une grosse machine, puis là, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et comment ça marche? C'est, à un moment donné, ils trouvent de l'eau. Puis plus tu creuses, plus tu as d'eau, et puis plus ça coûte cher. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que le gars, il creuse, et finalement, on a trouvé de l'eau. Là, il me dit, bon, ça fait tant de quantité d'eau par heure, ou je sais pas quoi. Il dit, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. OK, continue de creuser. Là, tching, l'argent continue à sortir. Jusqu'à temps qu'on ait creusé assez profondément pour être à la source, puis avoir de l'eau. Aujourd'hui, je t'appelle à être un chrétien qui creuse. Être un chrétien qui creuse dans sa vie de prière. Qui ne se contente pas de dire merci Jésus pour la bonne nourriture, amen, même si c'est bien de dire ça, mais qui creuse. Qui va dans la présence de Dieu. Qui y va plus souvent. Qui y va plus longtemps. Qui prie à différents moments de sa vie, à différents moments de sa journée. Il y a auprès de Dieu une puissance. Il y a auprès de Dieu un secours. Il y a auprès de Dieu une sagesse. Il y a auprès de Dieu de l'amour infini auquel tu as accès. Vous savez, quand on ne va pas bien, une des phrases qu'on dit comme chrétien, c'est « Peux-tu prier pour moi? » Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? « Prie pour moi, ça ne va pas bien. » Lève ta main si tu as déjà dit ça à quelqu'un. J'aimerais te dire, c'est très bien de dire ça, continuez de dire ça, mais il existe quelque chose d'encore plus fort que ça. de toi-même prier. C'est facile de dire, tu donnes la job à quelqu'un d'autre. Ça va pas, prie pour moi, ça va pas. Ça va pas. Là, l'autre est obligé de prier pour toi. Puis c'est correct. Mais qu'est-ce qui arriverait si chacun d'entre nous, quand on va pas, là, qu'on se dit, OK, là, je vais skipper un repas ou deux, je vais jeûner, je vais prendre une heure, deux heures avec Jésus, je vais lire ma Bible, je vais chanter des louanges, je vais moi-même prier. Il y a une force pour toi auprès de Dieu. Il y a une force pour toi auprès de Jésus. Je vais inviter les musiciens à revenir, on va terminer en prière ce matin. Juste vous lire un petit texte que j'ai écrit. J'essaie d'expliquer le mieux possible ce que j'ai à dire. Ça sort peut-être pas comme je voudrais. Je veux que tu saisisses à quel point c'est important ce matin de devenir un champion de la prière. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Maintenant comme jamais, notre vie de prière doit devenir prioritaire. Prendre plus de place, accorder plus de sérieux. Prier plus souvent, prier plus longtemps, prier seul, prier avec des gens, prier avec l'Église. Priez avec votre conjoint, votre conjointe. Priez avec vos enfants. Priez dans votre voiture. Priez le matin. Priez le soir. Priez l'après-midi. Priez avant de manger. Priez avant de vous coucher. Priez dès votre réveil. Priez quand ça va mal. Priez quand ça va bien. Priez pour vous-même. Priez pour les autres. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos autorités. Priez pour vos amis. Priez pour vos ennemis. Priez pour l'avancement du royaume de Dieu. Priez pour vos voisins. Priez pour votre ville. Priez pour le Québec. Priez pour votre église et les églises Nouvelle Vie. Priez pour les autres églises. Priez pour les riches. Priez pour les plus démunis. Priez plus. Priez à haute voix. Priez en murmurant. Priez par l'Esprit. Priez le Notre Père. Priez pour la guérison. Priez pour la délivrance. Priez pour les politiciens. Intercédez, louez, chantez. Priez les textes de la Bible. Priez, priez, priez. Est-ce que vous saisissez ce matin? Est-ce que vous comprenez l'appel ce matin? Je ne vais pas taper sur la tête de personne, mais mon cœur de berger s'inquiète pour vous. Et je prie que chacun d'entre vous, vous puissiez vous accrocher à Dieu comme jamais. Vous accrocher à Dieu comme jamais. Que votre vie soit entièrement à Jésus et que votre vie de prière puisse prendre une autre étape, un autre step, un autre niveau. Moi, c'est ce que je veux pour ma vie et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous ce matin. Est-ce que vous avez envie de vous approcher de Dieu? Est-ce que vous avez envie de grandir dans votre vie de prière?